Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
Et le grand débat à 8h35 ce matin, c'est avec Emmanuel Le Chypre, avec Marc Fiorentino et avec Bennaouda Abdedaïm. C'est ce qu'on appelle clairement un All-Star Game. Aujourd'hui, ce matin, on va commencer évidemment par parler marché, parler de ces décisions de réserve fédérale de la Fed. Notamment, on a reparlé ce matin de Janet Yellen, Marc, qui souffle un peu le chaud et le froid sur les marchés. Voilà ce qu'elle nous a dit il y a un peu plus de 48 heures.
The Fed's new lending facility.
Le nouveau programme de facilité d'emprunt introduit par la Fed est prévu pour toutes les banques et leurs dépositaires qui en ont besoin. La situation se stabilise et le système bancaire américain demeure sain.
And the US banking system remains sound.
Alors ça, c'est Janet Yellen il y a 48 heures. Mais Janet Yellen il y a 24 heures, c'est autre chose. Écoutez-la.
Insurance or guarantees of all deposits.
Nous n'avons pas envisagé d'augmenter largement la couverture des dépôts. Alors, ils couvrent ou ils ne couvrent pas les dépôts, Marc ?
Alors, c'est une question qui est ultra difficile, hein, parce qu'en fait, ils couvrent les dépôts, mais ils ne doivent pas le dire.
Ah.
C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, bah, s'il y a une, on l'a vu, hein, s'il y a des difficultés bancaires, il faut sauver les déposants. Ça, c'est sûr maintenant. Mmh. Enfin, il n'y a plus de sujet. On peut rassurer tous les gens qui nous écoutent et qui nous voient. On va sauver les déposants sans limite. On ne peut pas se permettre d'avoir des déposants qui perdent une partie de leur argent, parce que c'est tout le système financier international qui s'écroule. C'est-à-dire, on dit 100 000 euros ou 250 000 dollars, mais de toute façon, c'est mort. À partir du moment où vous n'avez pas une garantie complète de tous les dépôts, le problème, c'est que si vous dites qu'il y a une garantie complète de tous les dépôts, c'est-à-dire si vous l'affirmez, bah, c'est finalement un blanc-seing à toutes les banques pour faire tout et n'importe quoi.
Ouais. Ça change le business, en fait.
Alors, oui et non. Oui et non, parce qu'il y a quand même des sanctions qui ont été prises, hein, dans la crise du Crédit Suisse et dans la crise de la Silicon Valley Bank. C'est que les actionnaires ont été ruinés. Donc, on ne pourra pas quand même faire n'importe quoi. Ils ont été ruinés. Hein. Il n'y a plus d'argent. Là. On n'a pas sauvé la banque. Hein. On a sauvé les déposants et aussi les créanciers. Une catégorie des créanciers, on en a beaucoup parlé, c'est très technique, mais une partie des créanciers a été complètement laminée. Ça veut dire quand même qu'on est dans une situation qui est une situation plutôt assez bonne. C'est-à-dire que les banques vont devoir faire très attention. C'est ce qui explique aussi que les actions des banques n'ont pas totalement rebondi malgré la sortie de crise, parce que tout le monde est en train de se dire, ben finalement, en cas de problème à venir, et il y aura d'autres problèmes à venir de banques, en cas de problème à venir, eh bien, les actionnaires seront laminés. On fait attention aux
déposants. Protège les dépôts, on lamine les actionnaires.
Exactement.
Bennaouda.
Le problème est d'ordre éminemment politique. Les démocrates, il faut le rappeler, en 2018, lorsqu'il s'est agi de remettre en cause l'architecture de régulation post-2008, il faut savoir qu'au Sénat américain, il y a 100 sénateurs, 50 républicains ont voté pour assouplir cette législation et 17 démocrates. Donc, ils ont permis aux républicains de tirer un trait sur une bonne partie de la législation qui a conduit, selon nombre de démocrates, à cette situation-là. Et donc, ça ne pourra pas aller une remise en cause de ces seuils-là des 250 000 dollars sans que les démocrates obtiennent, notamment la sénatrice Elizabeth Warren, qui est très en pointe sur le sujet, obtiennent et elle dit que c'est une priorité immédiate, une remise sur le travail de cette législation de régulation.
Et donc restreindre de nouveau.
Exactement.
Et se conformer peut-être à Bâle III.
Exactement. Et là, en face de, on n'entend pas du tout les républicains. Donc, il faut, pour les démocrates, il faut avoir les républicains, mais pour la Maison-Blanche, ils ne peuvent plus se passer de ce courant, disons, à gauche, sur ce sujet.
Emmanuel Le Chypre, votre voisin de bureau, Nicolas Dose, tout à l'heure sur ce plateau, nous disait que la garantie de 100 000 euros des banques françaises et européennes, au fond, c'était de la monnaie de singe. Que le jour où les épargnants décident de sortir leur liquidité, les banques n'y arriveront pas.
Ah bah ça, vous pouvez effectivement être une banque avec tous les bons ratios de solvabilité, etc. Si vous êtes la proie d'une forme de panique bancaire qui fait que tout le monde veut retirer son argent, aussi solide que vous soyez, vous n'avez pas les moyens de faire face.
Même avec la garantie des banques centrales.
De faire face. Alors, attendez. Pour le moment, non, mais pour le moment, en Europe, on n'en est pas. on n'en est pas encore là à cette garantie absolue. C'est-à-dire que il faudra être confronté au cas où effectivement on a une banque qui est victime de cette défiance. Or on n'a pas ça en Europe encore.
Mais si on avait ça,
on l'a eu aux États-Unis. Hein.
On l'a eu aux États-Unis, mais on l'a pas encore une fois. On l'a pas en Europe.
Si ça se passait, on est d'envisager le scénario du pire. Est-ce que effectivement une garantie des banques centrales permettrait d'apporter des liquidités à tout le monde?
En tout cas, moi, je pense que de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement en Europe que ce qui est fait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on sauvera, effectivement, exactement selon le même schéma, on sauvera les dépôts des clients et, ce qui changera pour le coup, on ne sauvera pas les banques.
Donc tous les dépôts sont garantis. C'est pas ce qu'il faut retenir.
Il faut être quand même très clair parce qu'on parle de choses, d'une chose et son contraire. Tous les dépôts sont garantis. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui de perte de dépôts parce que c'est tout le système financier international qui serait en faillite totale. Comment on garantit tous les dépôts
On parle des grandes banques, BAL3.
Alors on parle des grandes banques. On parle pas que des grandes banques. On parle pas que des grandes banques parce que de toute façon on n'aura pas le choix. C'est-à-dire que même une petite banque peut entraîner d'autres banques. Donc moi je crois pas du tout à cette distinction petite banque et grande banque. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un sauvetage avec un facteur, excusez-moi de répéter, mais c'est quand même un changement total par rapport à tous les paradigmes. Le fait de rincer tous les actionnaires fait que les banques vont quand même faire attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les actionnaires vont se dire, attendez, on a vu ce qui s'est passé, les créanciers aussi. Donc si vous voulez avoir accès à de l'argent, il va falloir bien gérer sa banque. Rappelons quand même que les deux banques, les deux banques qui sont tombées sont deux banques qui ont fait des erreurs de gestion mais monstrueuses.
Non mais attends, si on compare l'Europe encore une fois et les États-Unis, quand tu dis petite banque, certes, mais en Europe, les petites banques sont soumises aux mêmes réglementations que les grandes. Ce qui n'était pas le cas aux États-Unis. Non, moi ce qui m'inquiète, c'est parce que c'est quand vous êtes client, il y a quand même des zones d'ombre, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui sont clients d'institutions financières qu'ils considèrent certainement de bonne foi comme des institutions à qui on peut confier son argent, mais qui ne sont pas des banques, qui sont tout un tas, toute la palette, des fonds d'investissement, etc. Et où certainement les gens pensent que de bonne foi, leurs dépôts sont garantis, et ça n'est pas le cas. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt ce qui se passerait dans cette fameuse sphère de la finance parallèle.
Benaouda.
Mais Christophe l'évoquait, c'est bel et bien une question, aujourd'hui même, à Bruxelles, entre chefs d'État et de gouvernement, où il s'agit de parvenir à parachever l'union bancaire qui était dans une déclaration solennelle de l'Eurogroupe en juin 2022, qui disait déjà en juin 2022, mandat doit être donné à l'exécutif européen pour parvenir à un mécanisme de résolution des crises bancaires, à un système européen de garantie commun des dépôts, ce dont ne veut absolument pas l'Allemagne parce que, selon l'adage clair, c'est nous qui paierons à la fin. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas encore d'indication claire sur un système commun européen, un peu à l'image des États-Unis. Encore une fois, l'Union européenne, c'est une somme de 27 et pas 27 en bloc.
Si Janet Yellen est aussi très mal à l'aise, c'est que dans le cas de la Silicon Valley Bank, il y a une erreur mais absolument monumentale des régulateurs. Rappelons quand même qu'elle était patronne de la Fed et c'est quand même dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de régulation, même si la régulation existait, elle n'a pas été appliquée. Ils ont fait n'importe quoi.
Un petit rappel de ce que nous avions dit hier ou avant-hier, le gouverneur de la Banque d'Angleterre devant la Commission du Trésor qui a dit, je n'ai qu'à avoir transmis une alerte 18 à 24 mois avant ce qui est survenu pour la SVB.
Je voudrais quand même vous faire réécouter Jean-Claude Trichet qu'on a reçu hier avec Laure sur ce plateau et qui était beaucoup moins confiant, en tout cas, qui était peut-être plus réaliste que n'ont été nos principaux interlocuteurs Brassac ou Willeroy de Gallo. Écoutez Jean-Claude Trichet sur la crise financière.
On a augmenté les taux comme cela avait été dit et promis, mais on a changé ce qu'on appelle les indications ex ante, le forward guidance dans le jargon, parce que précisément, il y a besoin d'informations supplémentaires pour savoir ce qui sera fait. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, on a changé les indications a priori, et c'est ça qui signale qu'il y a un problème particulier de fragilité, disons, de la sphère financière.
Il y a un problème particulier de fragilité de la sphère financière.
Non, mais il y a une phase de transition. Je me tue à le répéter. On ne passe pas d'un monde à taux négatif à un monde à taux de 4 ou 5 %. sans casser quelques banques, sans casser quelques problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient de changer, je crois qu'on a du mal à réaliser, même ici, le changement de paradigme qu'on est en train de vivre. On a vécu des années sous perfusion d'argent magique. Aujourd'hui, cet argent magique a disparu. C'est normal que les circuits se remettent à fonctionner normalement, les circuits bancaires, les circuits de l'économie, et donc on a de la casse. Ça, c'est normal.
Il y a un truc que je n'ai pas compris. Pourquoi vous avez dit que Janet Yellen, elle ne peut pas le dire, que les dépôts sont garantis? Pourquoi elle est obligée de revenir sur cette déclaration?
D'abord, parce que, comme le disait Ben Aouda, c'est un problème politique. Hein. C'est-à-dire que dire aujourd'hui, on donne une garantie à toutes les banques, c'est quand même politiquement... Il faut passer par le Congrès. Enfin, voilà, donc c'est quelque chose qu'elle ne peut pas, elle, affirmer. Elle n'a pas le pouvoir de l'affirmer. D'autre part, c'est quand même quelque chose de très sensible, parce que ça voudrait dire qu'on donne un blanc-seing aux banques pour faire tout et n'importe quoi. Donc il faut mettre en place d'abord la régulation, il faut passer par la case législation, et ensuite il faut garantir. Mais de fait, rappelons aussi une chose, les fonds de garantie n'ont pas d'argent. On le sait tous. Hein. Mm. C'est-à-dire que les fonds de garantie qui sont supposés garantir les 100 000 euros...
C'est pas des stocks de dépôt.
Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'argent.
Aux États-Unis, c'est 125 milliards de dollars pour 10 000 milliards d'actifs, pour vous dire un peu la balance que c'est.
Ah oui. Donc de toute façon, cette garantie-là, de fait, elle n'existe pas. Donc la garantie totale, c'est la garantie des banques centrales et des gouvernements.
De toute façon, comme on l'a vécu depuis la fin de l'État noir, tout est une immense.
Oula, vous remontez loin.
Oui, non, mais c'est vrai. Tout est une convention sur la valeur de la monnaie.
C'est vrai que sur la confiance. Vous avez
la confiance.
La parenthèse qu'on referme, c'est pas la parenthèse de crise sanitaire Covid, de crise sanitaire de guerre en Ukraine. C'est même pas la parenthèse ouverte en 2008 avec la crise financière et finalement, toutes les révolutions qui sont intervenues ensuite en termes de politique monétaire, quantitative easing, etc., c'est carrément la parenthèse, enfin si on peut appeler ça une parenthèse, qui a été ouverte au début des années 80, quand on a effectivement déréglementé le fameux Big Bang financier, la mondialisation, la révolution informatique, etc., qu'on est rentré dans cette ère.
C'était tout dedans.
La machine à vapeur.
Non, la diligence. C'est la fin de l'ère du capitalisme financier. Dans les années 90, les taux d'intérêt étaient très bas aussi.
Déjà 1990.
Quand même, pendant ce temps-là, Jérôme Powell a pris une décision, 0,25 de hausse des taux. On a bien compris que l'inflation, ça continuait quand même à rester un objectif. Marc, on a des chiffres quand même, ça ne ralentit pas. Je sais que vous vous dites que on attend, on va trop vite, mais ça va arriver. Vous voyez toujours que ça va arriver, cette baisse de l'inflation.
Ah ouais, mais je pense que c'est inéluctable. Je pense que, moi je suis pas économiste, et il y a des économistes compétents quand même à gauche, mais je pense qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour savoir qu'on a vu le prix de l'énergie, on va pas répéter toujours la même chose. Donc cette inflation, elle va diminuer. Après, il y a une question de temps, on est toujours trop pressés, nous, les hommes de marché, alors que l'économie a des cycles qui sont beaucoup plus longs que les cycles de marché. Donc j'ai absolument aucune inquiétude sur le niveau de l'inflation. Après, il y a effectivement des phénomènes qui font qu'il y a un ralentissement de la baisse de l'inflation. Alors on dit que l'inflation en Angleterre a rebondi.
Ouais, 10,4.
Bon, entre 10,2. 10,5 à 10,4.
Ouais.
C'est pas non plus la fin du monde, mais c'est vrai. C'est pas un ralentissement, c'est pas la chute qu'on attendait aussi brutalement. J'attends de voir quand même à la fin de l'année ce qui va se passer.
Vous attendiez Hugues de Gallo sur ce plateau. Il était quand même moins optimiste qu'avant. Il commence à dire l'objectif, ça reste 2% 2024 ou 2025. On recule. Hein.
Vous l'écoutez donc.
Oui. On l'écoute, toi, Thibia.
Et puis, on a l'impression qu'en fait, effectivement, tous les banquiers centraux d'Europe réfléchissent à haute voix. Vous avez peut-être entendu Christine Lagarde mercredi expliquer, mettre en garde contre le risque d'une dynamique du tac au tac entre les entreprises qui augmentent leur marge bénéficiaire, les travailleurs qui se calent sur les anticipations de marge des entreprises et pour faire augmenter leur salaire, ce qui conduit en fait deux groupes antagonistes à vouloir s'appuyer sur l'inflation pour pouvoir augmenter leurs ressources. Et de ce point de vue-là, Marc Fiorentino a une thèse très intéressante.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même, d'un côté, vous avez les discours et les hausses de taux, puis de l'autre côté, on fournit des liquidités.
Ben oui. C'est-à-dire paradoxe de la politique monétaire
actuelle.
Alors,
c'est pas totalement un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on est dans cette démarche qui consiste à dire, vous voyez, on est en train de lutter contre l'inflation, on lâche pas le côté, et puis de l'autre côté, on met des liquidités.
Ouais. Alors là, François Villeroy-Gallo, que j'écoute, effectivement, vous direz, c'est ça, on a plusieurs instruments, on les utilise. Ah, oui. Quel est le problème, quoi?
Ah ben, moi, je vois aucun problème.
Bon,
c'est-à-dire que c'est un problème de communication. Mmh. Quand on dit, je monte les taux de 0,25%, c'est de la communication anti-inflation, et derrière, on remet de la liquidité.
Allez, c'est peut-être le compte à rebours qui a commencé pour TikTok. C'est TikTok tic-tac pour TikTok, hein, avec cette audition devant le Congrès américain. Et oui, c'est pas mal. Hein.
Ouais, ouais, franchement, bravo. Non, mais vous êtes très en forme.
Tic-tac, c'est la montre tic-tac.
Ouais, j'avais compris. Ouais.
J'avais compris. L'audition du patron de TikTok devant le Congrès américain, on l'écoute, c'était un peu chahuté.
Je n'ai vu aucune preuve que le gouvernement chinois a accès à ces données. Ils ne nous l'ont jamais demandé, nous ne les avons pas fournies.
Vous savez quoi ? Je trouve ça complètement absurde.
Je n'ai vu aucune preuve de cela. Pour assurer tout le monde ici et tous nos utilisateurs, notre engagement est de déplacer les données aux États-Unis pour qu'elles soient stockées sur le sol américain par une entreprise américaine supervisée par des employés américains.
Benaouda Souzichou, il peut dire ce qu'il veut, il a tort en fait face à ce congrès.
Oui, comme Christophe le disait tout à l'heure, c'était vraiment, vraiment à charge. Il pouvait raconter ce qu'il voulait. Notamment, à un moment, il y a un élu républicain qui lui pose, qui lui demande trois fois de réagir au génocide contre les Ouïghours en Chine. Que voulez-vous que le patron de TikTok aille dire à ce sujet? Et le pire, peut-être pour lui, lors de cette audition, c'est qu'il a été assimilé à Mark Zuckerberg, ce qui signe peut-être, en quelque sorte, l'arrêt de mort de cette application aux États-Unis.
Mais c'est possible, cet arrêté TikTok, vu le nombre d'utilisateurs?
150 millions de clients personnels, 5 millions d'entreprises et...
Allez-y, coupez, quoi.
Ce qui est frappant, c'est de voir comment les médias d'État chinois n'arrêtent pas de mettre au défi les Américains. Allez au bout de votre logique, coupez à vos adolescents TikTok, montrez que vous agissez comme des enfants, comme des gens fébriles qui n'ont pas l'assurance de leurs propres valeurs et qui sont obligés d'en passer par une interdiction pour pouvoir...
Aussi, ils interdisent
C'est quand même
mais
savoureux.
Ce sont deux systèmes différents.
Ouais. Non, mais enfin, c'est quand même un peu savoureux. C'est-à-dire qu'on reproche aux Américains ce qu'on ne reproche pas aux Chinois.
Ouais.
C'est-à-dire, je vous rappelle qu'il n'y a pas Google, il n'y a pas Apple, il n'y a pas Google, il n'y a pas tous les réseaux américains en Chine, ils sont quasiment interdits de fait.
Oui, mais les Chinois n'ont pas la prétention de diffuser au monde entier les libertés publiques et la démocratie.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais il y a une règle de réciprocité et de naïveté. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on permettrait aux Chinois de faire ce qu'eux ne permettent pas de faire. Donc, à partir du moment où ils sont dans une politique et une politique d'interdiction de tout ce qui n'est pas chinois, ben je pense qu'il faut exactement répliquer de la même façon. Et je pense que l'interdiction va venir à un moment, parce que de toute façon, on ne peut pas continuer à avoir des données de 150 millions d'Américains et des données en masse qui sont à la portée, parce que personne ne croira à la muraille de Chine, c'est le cas de le dire.
Vous êtes sûr que les données sont...
Ben évidemment, enfin, comment on peut croire quand on voit la façon dont le patron d'Alibaba a été traité? Est-ce qu'on peut imaginer une seule minute, une seule minute qu'une grande entreprise comme TikTok ou comme n'importe quel réseau ou comme n'importe quelle grande entreprise chinoise n'est pas sous la coupe du Parti communiste chinois? C'est impossible.
Vous pensez la même chose, Benabda?
Non, mais la solution que veulent pousser les Américains, c'est que TikTok devienne made in USA, que TikTok chinois soit TikTok américain. Et encore une fois, il suffit de voir, par exemple, le Wall Street Journal, comment ils reviennent systématiquement sur cette idée-là. Il faut que TikTok devienne américain.
Ou
ne le soit pas.
Allez, un mot quand même, parce que ça va faire plaisir à tous ceux qui sont sur ce plateau, de la fin du thermique en 2035. On a trouvé un allié, les Allemands, qui veulent revenir sur l'accord de Bruxelles. On va écouter ce qu'en pense Luc Châtel, c'est le patron de la plateforme automobile, et il a l'air plutôt content de l'attitude allemande. Écoutez-le.
Le virage, il a été pris par les constructeurs.
Ah oui,
donc on joue le jeu. Simplement, ce qu'on dit au gouvernement, et c'était mon message auprès des ministres mardi, attendez, les voitures, on va les avoir. La vraie question, c'est est-ce qu'on aura les acheteurs? Est-ce qu'on aura les bornes de recharge? Est-ce qu'on aura une électricité abordable? Parce que, là encore, Carlos Tavares a raison, on n'a pas fait de bilan 360 et donc d'avoir un impact. Regardez, quand on a eu l'explosion des prix de l'énergie là il y a quelques semaines, bien ça s'en ressent immédiatement, l'inquiétude sur les achats de véhicules électriques.
Emmanuel Le Chip, qu'est-ce que ça vous inspire? Enfin, on revient sur cette règle?
Non mais c'est alors pour le coup, je trouve que dans les discussions qui ont lieu ce week-end, c'est pas ça le pire, parce que finalement, bon, qu'on gagne 5 ans ou pas pour obtenir,
c'est beaucoup pour la planète.
Ah, c'est très important. Non mais c'est pas beaucoup pour la planète. La réalité, c'est qu'en 2035, la majorité des véhicules qui circuleront seront toujours des véhicules thermiques.
Ouais, mais tu reportes d'autant.
Vous pouvez considérer que voilà, mais on reporte d'autant sur quelques véhicules. Le sujet qui est beaucoup plus préoccupant, c'est le sujet autour du nucléaire, parce que c'est bien beau de vouloir faire les malins avec des voitures électriques, si vous n'avez pas l'électricité pour les produire. Et là, on est reparti dans les les débats sur est-ce que le nucléaire c'est une énergie
Vous avez vu les luxembourgeois qui disent que c'est une énergie
dans un
pas
nouveau
sûr,
troc
sale.
Et vous avez encore un nouveau naufrage européen, c'est-à-dire que vous dites décidément sur tous les sujets notre compétitivité elle est en train de s'effondrer par rapport à la Chine et aux États-Unis. Vous prenez tous les sujets. La voiture électrique, c'est le cas quand vous regardez les investissements que font les Chinois, même les Américains. Vous avez 70% par exemple des kilomètres qui ont été faits par des voitures autonomes dans le monde qui sont faits par des voitures américaines.
Vous dites quoi sur l'électrique?
Ce que je veux dire, c'est que là encore, avec ces histoires de cours de récré à Bruxelles.
Ah, c'est plus que de la cour de récré. Benoît, c'est de la politique intérieure.
C'est pas de la politique intérieure, c'est de la cour de récré. C'est-à-dire que pendant que les États-Unis et la Chine avancent vraiment, nous on est là à se demander, à danser sur le pont du Titanic, à se demander si le nucléaire c'est bien une énergie propre, pas propre. Donc c'est dramatique pour l'Europe, c'est que même institutionnellement finalement on est plus compétitif et même dans nos processus de décision on est plus compétitif. Donc moi franchement là je vois pas comment on peut s'en tirer.
Benaouda, vous avez 15 secondes, je sais que c'est peu.
15 secondes pour dire que l'Union Européenne projette sa puissance dans le monde par sa production de normes et par sa capacité à faire appliquer les normes qu'elle a décidées. Et le Premier ministre de Lettonie a dit aujourd'hui que si vous remettez en cause cette décision comme n'importe quelle autre, vous mettez à bas l'ensemble de l'architecture du processus décisionnel de l'Union européenne. Donc au-delà de cette question-là, c'est aussi la construction européenne qui est en jeu.